Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
La 6e édition du Forum des facteurs d'arc et de flèches a eu lieu le week-end du 14 et 15 octobre au parc Sainte-Agathe de Crépy en Valois. À cette occasion, plus d'une dizaine de créateurs étaient présents. Le public a également eu l'opportunité de participer à des jeux, des ateliers, d'assister à des démonstrations et a pu s'initier à différentes sortes de tirs. J'ai rencontré Justin Kopp qui m'a expliqué en quoi consiste son travail et ce qu'il présente sur le forum.
Je travaille au Traceo Lab à l'Université de Liège et ma spécialité c'est reconnaître l'armement préhistorique sur les sites archéologiques. J'ai été invité par le musée de Crépy pour faire des démonstrations autour du propulseur, de l'épieu lancé et de l'épieu en arme d'as, qui sont trois des grands systèmes d'armes qu'on a à la préhistoire. Et ça s'ajoute à l'arc, le dernier, que ici tout le monde pratique, donc je ne fais pas de démo.
Est-ce que tu peux nous présenter ces trois types d'armes ?
C'est des armes qui existent à travers toute la préhistoire. Au niveau des dates, la plus ancienne, c'est probablement l'épieu utilisé soit en arme d'as, soit en épieu lancé. Les épieux les plus anciens qu'on a, on les a retrouvés à Schöningen, en Allemagne. Et ils datent aux environs de 350 000 ans avant notre ère. C'est des épieux en bois, à pointe de bois. Il n'y a pas de pointe en pierre dessus. Et ils ont été conservés parce que c'est un site extrêmement humide. Ça a été conservé dans de la tourbe. Et on les a retrouvés tels quels. Au niveau du propulseur, le propulseur c'est une arme qui arrive beaucoup plus tard. On en a des traces directes, notamment en France, à cause des crochets qui sont en boîte de serre vidée, qu'on a retrouvés sur des sites en France. Et donc on sait que le propulseur était utilisé à ces moments-là. On est aux environs de 15 000 ans avant notre ère. Et au niveau de l'arc, c'est un peu plus tard que ça apparaît. En tout cas, c'est un peu plus tard qu'on en a des traces directes. Puisque l'arc, on a retrouvé les plus anciennes flèches aux environs de 8 500 ans avant notre ère, à l'Auschult, notamment dans le Grand Nord. Au niveau de l'armement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, parce que notre boulot à nous au Traceo Lab, c'est d'identifier les armes sur base des traces qu'il y a sur les outils en silex. Mais ça, je ne vous en dis pas plus, parce qu'il y a des publications en cours, donc ça va apparaître dans les mois qui viennent.
J'ai ensuite demandé à Justin de m'expliquer la fabrication d'un propulseur.
Le propulseur, c'est une des armes les plus faciles à fabriquer. Tu prends un bâton de 60 à 80 cm, tu mets, on en a des plus longs. Les plus longs propus, ils font jusqu'à 1m20. On les a en Australie. C'est énorme. Ça projette des saguets qui font jusqu'à 4m60 et 800 grammes. C'est des trucs énormes. Mais la plupart des propus, c'est entre 60 et 80 cm. On va juste mettre un crochet dessus. Ça peut être un bout de bois à 45 degrés ou un crochet en bois de serre qui est sculpté. Voilà. Peu importe. Dans le palétique supérieur, on a des crochets magnifiquement sculptés avec des cervidés dedans. Enfin, c'est des trucs superbes. Les gens peuvent taper sur Internet crochet du Madasil, par exemple, ou crochet, enfin, il y en a plein. Crochet palétique supérieur. Ils vont trouver des images. On l'attache juste dessus. Ce qui est important, c'est qu'on ait une distance de 0,5 cm entre le bâton et le crochet. Et une fois qu'on a ce 0,5 cm, on peut facilement placer la sagaie dedans. Et alors à ce moment-là, on rajoute juste un petit emmanchement, un petit bout de cuir, une petite ligature, quelque chose que soit confortable dans la main. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça.
Au forum des facteurs d'arc et de flèches, j'ai pu échanger avec Maëlle Coulanges qui m'a présenté ce qu'est le tir ottoman et elle m'a permis de participer à une initiation plus tard dans la journée.
Je suis ici pour la troisième année consécutive et en fait je présente le tir à l'arc ottoman, donc le tir à l'arc turc. C'est une discipline de tir à l'arc traditionnelle qu'on pratique avec des arcs très courts. Et on tire au pouce, non pas à trois doigts, ce qu'on appelle l'appréhension méditerranéenne, comme avec des longbows, des berbeaux, des arcs classiques, etc. Mais on tire sur des tout petits arcs, on a une bague au pouce de la main droite, et on vient armer l'arc en tirant la corde avec le pouce de la main droite, grâce à la bague.
Qu'est-ce que vous faites alors sur ce forum ? Vous présentez aux gens comment cela se passe pour tirer ?
Voilà, exactement. Je présente un petit peu le tir à l'arc et les différences surtout avec le tir classique, le tir qu'on apprend en club. Et je fais des initiations. En fait, je leur propose des initiations avec des arcs de faible puissance pour qu'ils puissent se faire une idée, tir sur cible, pour s'habituer à cette technique.
Vous, personnellement, qu'est-ce que vous préférez comme technique ? Vous préférez la technique dite méditerranéenne ou ottoman ?
Ah, mais moi, je préfère la technique ottomane parce que j'ai commencé au longbow, comme beaucoup de gens, mais maintenant, je tire uniquement avec la technique ottomane, avec des arcs, donc du coup, ces arcs-là qui sont très courts et avec des flèches en bois, toujours des flèches en bois. Et là, donc, on ne le voit pas à la radio, mais j'ai un costume traditionnel ottoman du XIVe siècle pour aller avec le reste de la tenue. Donc, il y a un carquois de flèches, carquois d'arc, la sacoche, la dague et la coiffe et la tenue complète, quoi.
Christian Lepers est technicien au laboratoire de tracéologie Traceo Lab de l'Université de Liège. Il fabrique des objets lithiques avec les mêmes matériaux que les hommes préhistoriques et dans les mêmes conditions. Il m'a livré des informations sur la taille de silex, comme lors de ses démonstrations pendant le forum.
Je viens de Belgique. Et alors, je suis passionné de tir à l'arc, mais aussi de taille de silex. Donc ici, sur le site, pendant le forum, je fais des démonstrations de taille et de silex. Je parle de préhistoire et je relis l'arc sur la préhistoire.
Alors, pourriez-vous nous donner un aperçu de ce que vous expliquez aux gens ?
Oui. En fait, donc, les techniques de taille de silex vont évoluer tout au cours de la préhistoire. Et en fait, elles sont les, quelque part, précurseuses des techniques qu'on va retrouver maintenant. En fait, pour rester sur le domaine de l'archerie, une grosse partie des types d'armatures qu'on retrouve maintenant, qu'on utilise pour la chasse ou pour le tir sportif, on retrouve déjà les équivalents en silex pendant la préhistoire. Et donc, en fait, on n'a jamais qu'une adaptation d'un même concept suivant l'évolution des matériaux. Et alors, naturellement, pour les arcs, ben, pour la période préhistorique, on est davantage en présence d'utilisation de matériaux en bois pour les arcs, peut-être d'arcs composites comme certains autres facteurs qui mélangent du tendon, du bois et de la corne, mais on n'est pas comme les arcs modernes où on a utilisation de fibres de verre, de fibres de carbone, de fibres synthétiques, quoi.
Comment se passe la taille d'un silex ?
Eh bien, c'est tout un processus, je vais dire technique, qui répond à des règles très précises. Donc il faut vraiment sortir de l'idée que c'est des techniques primitives et ce sont des techniques simples. En fait, c'est des techniques qui nécessitent des années d'apprentissage et qui font appel à des comportements physiques qui sont répétitifs, récurrents dans la matière et qui permettent d'avoir une taille répétitive, récurrente. Donc on arrive à non seulement répétitive et récurrente, mais aussi prédictive. Donc quand on prépare bien les enlèvements qu'on va faire sur le nucléus, on est capable de dire, là, lame que je vais détacher ou l'éclat que je vais détacher, il va prendre telle forme, il va l'étendre dans telle direction et il va faire telle longueur. On arrive vraiment à avoir du prédictif. C'est absolument pas un travail au petit bonheur la chance. Et donc, comme je disais, ça nécessite la compréhension de quelques règles physiques et géométriques assez simples, mais après leur application de manière régulière, ça demande énormément de travail. Un peu comme le tir à l'arc, où finalement la théorie est assez simple, c'est la mise en pratique qui nécessite des années, des années, des années d'entraînement et de pratique.
Est-ce que vous utilisez des outils spécifiques pour tailler le silex ?
Des galets en pierre, des percuteurs en bois de serre et même parfois des percuteurs en bois dur comme du bouillon. Parce qu'en fait, ça impressionne souvent les gens, mais du bois de serre et du bois, c'est moins dur que le silex. Mais en fait, c'est pas une question de combat du plus dur contre le plus dur, c'est pas le pot de terre contre le pot de fer. C'est vraiment l'application de règles spécifiques en respectant des angles de frappe particuliers, en ayant des préparations suivant des angles spécifiques qui vont expliquer que la rupture va se faire plus facilement sous l'impact et donc va donner l'éclat qu'on désire obtenir.
Christian Jolivet est le capitaine de la compagnie d'arc de Woudec qui intègre dans ses locaux le petit musée de l'archerie qui est le seul musée belge qui se consacre à ce domaine.
Je viens de Belgique, je suis français, mais je viens de Belgique et j'ai monté un petit musée de l'archerie avec le musée de Crépy-en-Valois, donc on est amis. Moi je suis membre bienfaiteur depuis 35 ans au musée de l'archerie de Crépy. Et donc là, j'ai monté mon petit musée à moi, qui est de l'arc préhistorique à l'arc moderne. Et puis bon, là, je suis venu aujourd'hui parce que je fabrique des flèches, et donc personnalisées et tout. Et donc les gens aiment bien. Et je fais un atelier aussi de montage de crayons, flèches, pour les enfants. Voilà.
Est-ce que vous pourriez me dire comment se fabrique une flèche ?
Une flèche, ça se fabrique à plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'on prend un bois, donc il y a différents bois, il y a du pin, il y a du cèdre, il y a différentes essences de bois. Moi, j'utilise beaucoup de cèdre, donc ce sont ce qu'on appelle des fûts, ce sont des bouts de bois ronds qu'on taille à chaque extrémité. On met une pointe, une encoche en plastique, une pointe en fer, et on met trois plumes avec ce qu'on appelle une empenneuse pour avoir un angle tout à fait correct, quoi. Voilà. Je fabrique des flèches, justement, les gens aiment bien parce que je fabrique des flèches plus ou moins à l'ancienne. Bon, je fabrique des flèches pour les arcs modernes, pour tirer moderne, mais de temps en temps, je fabrique aussi des flèches pour les gens qui me demandent, dit traditionnelles, quoi, avec des méthodes à l'ancienne. Là, j'ai un pot avec où on faisait de la colle de poisson, donc il faut chauffer au bain-marie et donc les anciens se servaient de ça pour coller les pointes, les flèches, moi les encoches, les plumes, voilà.
Est-ce que vous avez ramené certaines pièces de votre musée que vous pourriez nous présenter ?
Oui, là, beaucoup de pièces sont là. Il y a beaucoup d'arcs. J'ai des arcs qu'on appelle des lambeaux, des grands arcs qui datent de 1900-1920 à peu près. Donc j'ai des arcs aussi en acier, ce qu'on appelle en dural, en acier suédois, donc en dural. On tirait aussi dans les années 50-60. Des arcs en fibre de verre. Et j'ai aussi ce qu'on fait nous en Belgique, on tire à la perche. Donc c'est sur ce qu'on appellera un râteau. Il y a des petits plumets qui forment des oiseaux et on tire dessus et on gagne de l'eau.
Depuis le parc Sainte-Agathe, le musée de l'archerie et l'office du tourisme de Crépy-en-Valois vous faisaient découvrir pour la 6e édition le forum des facteurs d'arc et de flèches. Un reportage réalisé par Julie Sacchetto pour RVM.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.